Place à la revue de presse de Claude Askolovic.
France Inter, le 7-9.
Et on parle de courage ce matin, Claude.
Le courage dans libération de ces insurgés de la place Tahrir à Bagdad en Irak, qui ramassent à la main les grenades que lancent les troupes du gouvernement et les noient dans des bassines d'eau avant qu'elles ne tuent à nouveau. Car elles tuent ces grenades lacrymogènes qui viennent de Serbie et de Bulgarie, 10 fois plus grosses que les nôtres, on les surnomme brise-crânes. Des jeunes bagdadis se sont organisés, ils se sont renseignés auprès des pompiers, ils ont acheté des casques et des gants ignifugés, ils ont disposé des bassines tout au long de la ligne de front qui sépare les insurgés démocratiques des forces de l'ordre juste avant les ponts sur le Tigre. Ils attrapent au sol les grenades fumantes pour les éteindre. Ils sont ces héros, les gardiens d'une commune qui, depuis 4 semaines, a libéré à Bagdad un territoire grand comme ce qui fut le cœur du Paris révolutionnaire entre Bastille et République, une commune de stands et de tentes où des rêveurs parlent d'un pays à construire. Un portrait de Jésus témoigne que les frères chrétiens sont dans le mouvement. Issa, Christ vivant, toi qui accomplis les miracles, délivre-nous du malheur, de la corruption et du mal. On récite des poèmes et on célèbre aussi une victoire de l'Irak sur l'Iran en qualification de la Coupe du Monde, car savez-vous, Tahrir connaît l'ennemi. Hier, le site Intercept, référence de l'investigation associée au New York Times, a décrit comment l'Iran avait phagocyté le voisin irakien pour étendre son influence et pour exorciser le temps où Saddam Hussein attaquait la République islamique. Passionnant document de Intercept à partir de 700 pages de rapports secrets du ministère iranien du renseignement et de la sécurité. Mais les manifestants de Tahrir n'ont pas eu besoin d'Intercept pour savoir déchirer en effigie un général iranien et savoir ce que vaut un match de football. Ce matin, la Croix s'émeut des peuples qui osent et raconte aussi bien au Liban un bus de militants qui a traversé le pays dans toutes ses composantes religieuses et voit aussi dans l'effervescence des universités chiliennes quelque chose qui ressemble à notre mai 68. Vous lirez et verrez aussi dans les journaux, évidemment, on en a parlé, et sur les sites internet, la polyuniversité de Hong Kong assiégée par la police. Des graffitis, me dit Le Monde, proclament que les idées résistent aux balles, mais on n'attrape pas les balles à la main.
On parle d'une équipe de football dans la presse.
Qui aurait été, Léa, la plus jolie de nos histoires de courage? Une équipe de foot à Pamiers, dans l'Ariège, créée en 2014 par deux gamins pour les enfants des quartiers oubliés. Elle gagnait des matchs en pratiquant son sport sans jamais tacler. L'entraîneur Stéphane Mayol, un menuisier quinquagénaire, ne voulait pas qu'on dise que ses joueurs étaient des voyous, des dealers ou bien pire, car c'était une équipe métisse, majoritairement composée de Noirs et d'Arabes. Des bougnoules, entendait-il parfois sur les terrains inverses. La police avait soupçonné le club d'être un repère islamiste. L'entraîneur qui recevait des jeunes avait été signalé par un voisin. Le club a pourtant joué et gagné 4 belles années avant d'être submergé d'hostilité et de combines, de racistes district presse qui racontent l'histoire sur Internet. Allez-y voir. Le Monde me raconte comment le football, le grand, le vrai, n'arrive pas à sortir du racisme et des cris de singe. Il aurait fallu écouter le grand Samuel Eto'o qui en 2006 avait voulu faire arrêter un match. No mas, on ne l'a pas fait, il faudra y venir. Exclure un club de toutes les compétitions si ses supporters dérapent. Il faudra que les grands joueurs noirs poussent pour cela. Jusqu'ici, ils ont souvent fait silence en échange de la bonne vie. Les hommes célèbres aussi ont besoin de courage. Le Figaro, dans un très bon papier, raconte Pablo Picasso, qui ne fut pas résistant pendant l'occupation. Lui qui avait peint le refus du fascisme dans Guernica avant-guerre, put vivre quand l'Allemagne occupait le pays. Il était protégé, des officiers visitaient son atelier. Il put sculpter, il avait du bronze et peindre un très beau crâne de bœuf où la mort rôdait. Oui, mais c'était un hommage à Goya. Le Picasso des années 39-45 est exposé au musée de Grenoble. Et en attendant d'y aller, lisez dans le Figaro cet article qui, pièce à pièce, analyse ce qui, dans la production du maître, les années noires, pouvait dire la tragédie de l'époque. C'est brillant et cruel aussi bien.
Et un petit garçon, Claude, pour finir.
Hugo, dans Sud-Ouest, qui a 9 ans et qui, dimanche à 3h52 du matin, est venu dans la chambre de ses parents, tenant par la main sa petite sœur qu'il avait réveillée. Et il leur a dit qu'il y avait un problème avec le cheminet parce qu'il avait entendu du bruit et vu du rouge et de la lumière à travers la poutre. Et c'est ainsi qu'une famille a été sauvée d'un incendie. Il est notre cadeau, Hugo. L'absolu contraire de l'atroce histoire d'un chirurgien pédophile qui, dans sa vie, a violé plus de 200 fillettes. Le Parisien, la Charente Libre Télégramme ne vous laisseront rien ignorer de lui. Il est, Hugo, l'absolu contraire du supplice d'une femme morte dans une forêt de laine d'avoir été mordue par des chiens. Le Parisien encore et le Courrier Picard sont à son rendez-vous. Mais ce n'est pas cela que je garde au cœur, mais 2 autres histoires d'animaux rapidement écoutées. Dans le Figaro, voilà Sésame, cheval alsacien de Hirschfeld dans le Bas-Rhin, propriété de cultivateurs bio qu'il exploite dans leur leurs vignes, mais les crottins de sésame incommodent et ruinent les propriétaires d'une maison d'hôte. On dirait une nouvelle histoire frelatée du folklore des campagnes, mais non. Car le Figaro a envoyé sa meilleure plume judiciaire à la cour d'appel de Colmar, et Stéphane Durand-Soufflant a vu un miracle. À la fin des audiences, la présidente de la cour d'appel a fait venir les parties et leur a dit qu'elle pouvait bien juger, mais sa décision ferait des malheureux. Allez, vous allez encore vivre ensemble, arrangez-vous. Et elle a pris le plan du cadastre, madame la présidente de la cour d'appel. Regardez, est-ce que ces âmes ne pourraient pas renoncer à brouter sur cette parcelle de terrain? Il suffirait d'une clôture, qu'en pensez-vous? Et voilà la présidente de la cour d'appel devenue juge de paix dans un miracle français. Dans la forêt de Chaux, Jean Termide est un autre miracle, me dit l'Est républicain. Il s'appelle Vincent, le surnom d'un cerf qui depuis 20 ans échappe aux chasseurs. Monsieur Trible l'a vu et la photographie en tremblant, en pleurant. Et en voyant cet animal et ses bois si hauts qu'il semble l'esprit de la forêt, il nous a dit longue vie.
Merci Claude.